Bonsoir, comment allez-vous ? Hier, après avoir reçu une facture papier que j'avais réclamée, j'ai récupéré l'enveloppe pour écrire derrière. Sauf que l'espace était déjà occupé par ce message. Faites un geste pour l'environnement, choisissez la facture électronique. Eh bien, j'ai dû jeter l'enveloppe et prendre un papier neuf, c'est malin. Je souris jaune, ça me fait penser aux gens qui font « chut » au spectacle en faisant quatre fois plus de bruit que ceux qui parlent. Cette entreprise qui écrit derrière les enveloppes m'a un jour envoyé un technicien pour m'installer la fibre optique. « Oh, mais je n'ai rien demandé, lui ai-je dit, tout marche très bien chez moi. »« Madame, c'est gratuit et c'est la performance technologique, dites oui. » J'ai dit oui. Quelque temps après, en voyant une facture électronique, justement, plus le prélèvement de 100 euros pour cette installation gratuite, j'ai vu rouge. C'est amusant parce que l'entreprise qui fait rire jaune et voir rouge, eh bien justement, sa couleur, c'est entre le jaune et le rouge, sa raison sociale aussi d'ailleurs. Comme quoi, les couleurs prennent peut-être plus de place qu'on ne le pense dans nos vies.
Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai 8 ans et je voudrais savoir qui a décidé que le bleu était la couleur des garçons et que le rose était la couleur des filles.
Bonsoir Rose, c'est un très joli prénom, il n'y a pas de garçon qui s'appelle bleu ou alors je ne le sais pas. Michel Pastoureau, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des couleurs. Pourquoi rose pour les filles, bleu pour les garçons, demande Rose.
Oui, elle a un joli prénom, très coloré. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce que nous ne le savons pas. Nous savons quand cette habitude apparaît, vers le milieu du 19e siècle. Bleu ciel pour les petits garçons, rose pour les petites filles. Nous savons que ça se produit d'abord dans les pays de l'Europe du Nord, protestants. Donc ça n'est pas une symbolique des couleurs catholiques, par exemple, bleu de la Vierge ou quelque chose comme ça. Donc il faut chercher ailleurs. Mais en fait, malgré des travaux assez nombreux sur cette question, nous ne savons pas très bien pourquoi, quand, comment, et il n'y a pas eu d'inventeur. Ce sont des pratiques de vie quotidienne qui se sont imposées comme cela lentement à partir des années 1860. Moi qui suis historien des couleurs, j'y vois au fond la déclinaison du bleu, couleur masculine, devenue bleu ciel pour les bébés et garçons, et du rouge, couleur féminine, devenue rose pour les bébés filles. Ça semble évident, c'est bleu et rouge à l'origine, devenu bleu pâle et rouge pâle, c'est-à-dire rose. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Et je peux souligner en revanche que cette idée qui nous est familière aujourd'hui, le bleu est masculin et le rouge est féminin, c'est le contraire de ce qui avait cours dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et encore à la Renaissance, où c'est le rouge qui est masculin, qui est viril, c'est la couleur des soldats, c'est la couleur de la guerre.
Du sang.
Et au contraire, le bleu est plutôt féminin, c'est la couleur de la Vierge, c'est la couleur des femmes, c'est la couleur douce, admirée, qui va devenir la couleur préférée à partir du XVIIIe siècle. Donc il y a eu une inversion entre le rouge et le bleu, entre le masculin et le féminin.
J'ai l'impression, Michel Pastoureau, que maintenant, les hommes portent du rose, des chemises roses, des chandails roses.
Oui, ils ne portent pas n'importe comment le rose, mais chemise, cravate, éventuellement chaussettes, peut-être sous-vêtements, je ne sais pas. Le rose a même fait son apparition sur les terrains de sport, y compris sur les terrains de rugby, un sport particulièrement viril. L'équipe de rugby de Paris, le Stade français, qui pendant un siècle a joué en bleu et rouge, a changé il y a une dizaine d'années son maillot traditionnel pour un maillot rose. Et c'est assez amusant parce que le sponsor de cette équipe de rugby parisienne, c'est la firme de téléphonie Orange. Alors le maillot est rose avec écrit en grosses lettres dans le dos « Orange ». Voilà qui amusera les archéologues des temps futurs.
Alors si le maillot de nos joueurs de rugby parisien est toujours rose, je crois que depuis que Michel Pastoureau est venu chez nous, leur sponsor a changé. En revanche, Michel Pastoureau a consacré ses derniers livres à une couleur, le rouge justement par exemple. Vous pouvez trouver les références de ses livres sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, dans les Petits Bateaux, nous saurons pourquoi les crabes des cocotiers n'ont pas de carapace, comment se forment les pierres ponces et pourquoi nous pouvons manger certains animaux et pas d'autres. Ces questions ont été posées sur notre répondeur 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Yann Tristan, j'ai 9 ans. Et je voulais savoir qui a inventé la majuscule. Au revoir et merci.
Bonjour Yann Tristan, qui a inventé la majuscule? Alors nous avons demandé à Isabelle Cloque-Fontani, qui est professeure des sciences du langage à l'Université de Limoges, spécialiste des langues et des écritures anciennes, particulièrement du Moyen-Orient. Alors qui a inventé la majuscule? Demande Yann Tristan.
Il est difficile de dire qui a inventé la majuscule. Nous écrivons avec des majuscules et des minuscules, certes, et notre alphabet vient de l'alphabet latin. Alors, les Romains, les Latins, écrivaient, comme les Grecs, avec des majuscules sur de la pierre.
Que des majuscules.
Que des majuscules. Et cela donnait un aspect monumental à l'écriture, parce qu'elles étaient très géométriques, très imposantes. Elles étaient faites pour être lues, pour être vues de loin. En gros, c'était pour manifester la puissance du pouvoir romain. Et on les utilise toujours, ce sont nos majuscules. Mais évidemment, quand il s'agissait d'écrire des lettres, des factures, la littérature, les Romains n'utilisaient pas de majuscules, mais une sorte de majuscule simplifiée, ce qu'on appelle une cursive, c'est-à-dire une écriture écrite, tracée rapidement. Les lettres étaient bien séparées. Alors, il faut sauter quelques siècles et on arrive à Charlemagne. Alors, Charlemagne n'a pas seulement inventé l'école, hein, en tout cas selon la chanson de notre enfance, il va inventer la minuscule.
Ah.
Charlemagne a un immense empire, hein, le Saint-Empire germanique. Et il veut unifier cet empire et il a voulu imposer une écriture unique. Alors, la minuscule va être inventée. Et ce qu'il voulait, c'était une écriture simple, lisible, qui puisse être utilisée dans tout son empire.
Plus rapide et qui prenne moins de place.
Qui prenne moins de place, qui soit lisible, qui soit élégante, qui soit rythmée. Et cette écriture va d'ailleurs être promise à un très bel avenir. Cette écriture s'appelle la minuscule Caroline. Alors pourquoi Caroline? C'est que Charlemagne, en latin, c'est Carolus Magnus. Carolus Charles, Magnus, Magne Grand.
Voilà.
Et donc l'écriture, c'est l'écriture de Charles, l'écriture Caroline. On établit aussi des règles d'écriture qui vont être les nôtres, par exemple de séparer les mots au moyen d'un espace.
Avant, on le faisait pas?
Alors avant, c'était plus compliqué. Les Romains séparaient les mots avec un point. Après, ils vont utiliser à la manière des Grecs la scriptio continua, c'est-à-dire l'écriture continue, sans séparer les mots. Et donc c'est vraiment à partir de Charlemagne qu'on va séparer les mots par un espace, comme nous le faisons maintenant. Alors cette écriture caroline va avoir un brillant avenir, puisque comme elle est très belle, elle va servir de modèle aux imprimeurs de la Renaissance, et ça va devenir l'écriture humanistique. Et on peut même dire que c'est l'ancêtre de notre Times, puisque c'est ce modèle qui va servir pour créer le Times, donc une écriture rythmée, élégante, fluide, très lisible. Ça, c'est de la minuscule. Et alors, la majuscule, eh bien, elle ne va pas disparaître, bien sûr. Et ce sont les imprimeurs de la Renaissance qui vont récupérer les lettres ornées des manuscrits du Moyen-Âge et vont utiliser la majuscule comme marque de début. Début de phrase, début d'alinéa, début de mot, exactement ce que nous connaissons.
Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now, head and clap your hands now. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit.
C'était Gregory Porter, Liquid Spirit.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je vous rappelle le principe des petits bateaux, si vous êtes nouveau. Des savants viennent répondre aux questions posées par les enfants.
Bonjour, je m'appelle Léo, je suis animé et je voudrais savoir pourquoi nous pouvons manger certains animaux et pas d'autres. Merci, au revoir.
Bonsoir Léo, alors nous avons proposé ta question à quelqu'un qui justement s'occupe de nourriture. Vous êtes Loïc Bienassis, historien à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation de l'Université de Tours. Alors Léo demande pourquoi on peut manger certains animaux et pas d'autres.
Bonsoir Léo. La réponse la plus simple, c'est que c'est culturel. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait que les animaux soient toxiques ou pas, puisque par exemple on mange certains animaux toxiques, on pense au fugu, ce poisson japonais, qui est justement, si on ne le prépare pas comme il faut, totalement poison. Donc finalement, on est capable de manger des animaux qui, a priori, ne se mangeraient pas. À l'inverse, on est incapable de manger certains animaux qui seraient tout à fait comestibles. Alors, c'est culturel dans le sens où les barrières qui nous empêchent de manger ces animaux s'explique par notre éducation, par tout notre environnement. En gros, on n'aime pas que les animaux soient trop proches ou trop éloignés.
Ah.
C'est-à-dire trop proches, ben on pense aux animaux domestiques.
À son chien.
À son chien, par exemple. Et trop éloignés, les animaux sauvages. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable de le faire, mais c'est là où il y a les tabous les plus forts.
Ah, c'est inquiétant.
C'est ça, je pense qu'il y a cette notion d'inquiétante. Il y a aussi le fait que finalement, on doute de la provenance. Il est éloigné symboliquement et on ne sait vraiment pas,
on ne sait pas ce qu'il a mangé, lui.
D'une certaine façon. Et par exemple, on peut noter aussi, d'ailleurs, pour reprendre l'expression de Claude Fischler, un anthropologue, qui a ce principe d'incorporation. C'est-à-dire que manger un animal, c'est aussi manger ce qu'il mange. Par exemple, on ne mange pas de charognard. C'est quelque chose où là aussi, il y a un tabou très fort. Alors, je crois que l'exemple le plus parlant pour marquer cette distance culturelle, c'est évidemment la religion, où là, on se rend bien compte que certaines religions proscrivent certains aliments. On pense évidemment au porc dans le judaïsme et dans la religion musulmane. Le christianisme, par contre, lui, n'a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou lié à certains animaux. Il y a évidemment des jeûnes qui sont prescrits, mais il n'y a pas de tabou spécifique au christianisme.
Moi, je pense vraiment à cette histoire de chien qu'on mange volontiers en Chine. Les Chinois n'ont pas de chien de compagnie?
Alors, si, ils en ont, mais je pense que là, finalement, ce schéma que j'explique fonctionne tout à fait en Occident et est moins opératoire, justement, en Extrême-Orient, puisque les Chinois, les Coréens aussi, sont des consommateurs de chiens, sont d'ailleurs, alors je ne sais pas si on peut le présenter comme ça, mais avec une certaine mondialisation, occidentalisation des habitudes, ce type de consommation commence à perdre en légitimité dans certaines fractions de la population en Chine.
Mousse. Et alors d'autre part, ma mère me disait que pendant la guerre, la dernière guerre, il n'y avait plus un chat au sens propre comme au sens figuré dans Paris.
Ah oui ?
Ouais, alors... parce qu'on mangeait les chats. Et elle disait même, quand tu fais du lapin, il faut bien mettre la tête du lapin dans le plat pour bien montrer que c'est du lapin et pas du chat.
Ah oui, alors ça, là on touche d'ailleurs à un autre tabou qui est que de nos jours, en particulier, on a de plus en plus de mal à retrouver l'animal intact dans nos assiettes ou sur les plateaux. C'était vraiment moins le cas auparavant.
Et oui, il y avait la tête, les trous de nez, les oreilles.
Exactement. Et on mangeait tout, beaucoup plus volontiers. Désormais, il y a cette volonté de mettre à distance la mort des animaux, qui est très claire, et de façon évidente, on essaye d'oublier, en transformant de façon beaucoup plus forte la viande, d'oublier de quoi il s'agissait. Une sorte d'hypocrisie.
C'est vrai que la tête de veau, c'est bon. Mais quand on le voit, le petit veau, tout petit, c'est mignon, vu que c'est petit cils et tout ça, ça ravigote plus du tout.
Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 6 ans, et vous voulez savoir comment s'est formé les pierres ponces. Merci de mes réponses, au revoir.
Merci Gabriel, bonsoir. Patrick Voileau, vous êtes spécialiste des pierres précieuses. La pierre ponce n'est peut-être pas précieuse, mais Gabriel aimerait bien savoir comment elle se forme.
Mais la pierre ponce, oui, la pierre ponce, c'est une lave volcanique, une scorie qui a été évacuée par le volcan et qui a une particularité extrêmement intéressante, c'est qu'elle flotte sur l'eau de mer
elle
notamment.
Elle est légère.
Elle est très légère, mais surtout, il y a beaucoup de bulles de gaz qui ont été dedans. Donc elle est faite de multitudes de petites bulles d'air dedans qui restent, ce qui fait qu'elle est très très légère. Voilà, et notamment, moi je vais très souvent en Corse, et il y a le Stromboli qui est de l'autre côté, qui est assez loin, et de temps en temps, quand le vent et les courants vont vers la Corse, on récupère des morceaux de pierre ponce.
Oh, ça me fait rêver de trouver des pierres ponces du Stromboli sur la plage. Bon, en même temps, je vais sur la plage en Bretagne, alors j'ai moins de chance.
Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, on ne transforme pas, on ne transforme pas. L'acier en étain, doune, 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 doune. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. L'écorce du chêne tient, puis soudain, soudain, crac, crac. Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. Petit oiseau, aurais-je plus mal?
Ne me change pas, ne me change pas, ne me change pas, ne me change pas, ne me change pas.
C'était Mespero, à ne pas confondre avec l'éditeur Maspero. Ne me change pas, ça c'est une vue de l'esprit que de vouloir changer les gens de toute façon.
Bonjour, je m'appelle Titouan, j'ai 10 ans, j'aimerais savoir pourquoi les crabes des cocotiers n'ont pas de carapace.
Catherine Vadon, vous êtes ichtyologue et vous avez écrit chez Belin « Merveilleux crabe ». Pouvez-vous répondre à Titouan ?
Alors, le crabe des cocotiers, c'est un crustacé d'une taille absolument impressionnante, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 40 cm de long, peser plusieurs kilos, et ses pinces sont absolument énormes. Alors, pour répondre à Titouan, il a bel et bien une carapace de couleur brun-rouge et bleu qui cuirasse en fait l'ensemble de son corps. Et c'est un crustacé qu'on trouve sur les rivages, sur les îlots, sur les atolls coralliens, dans l'Indo-Pacifique.
Mais si Titouan pose cette question, c'est que la carapace doit être spéciale.
Voilà. Alors, il y a une confusion sur le nom de crabe. Contrairement, en effet, au nom qu'on lui donne, il n'appartient pas à la famille des crabes, proprement dit, mais à celle des Bernard l'Ermite. Mais il est cependant une exception dans cette famille. Parce que, contrairement à tous les autres Bernard l'Ermite, son abdomen est recouvert de plaques dures, calcifiées, et il n'a pas besoin, au moins quand il est adulte, on va le voir, de le protéger. Tous les autres Bernard l'Ermite ont un abdomen mou, membraneux, donc très vulnérable, qu'ils ont besoin de protéger par une coquille de gastéropodes en général. D'où cette confusion, certainement, sur la carapace. Alors, quelques mots pour savoir un petit peu comment il vit. Il vit, il se réfugie dans un terrier qu'il a creusé, par exemple, dans le haut des plages ou sous les racines des palétuviers. Et pour se protéger de la déshydratation, il tapisse son abri avec des fibres de noix de coco qu'il a ramassées sur les plages.
Ah oui, d'où son nom de crabe des cocotiers.
Voilà. Ouais. Par contre, c'est la nuit qu'il se nourrit, qu'il devient actif. Et là, on peut le voir par centaines monter sur les troncs des cocotiers.
Il grimpe ?
Pour aller, avec des pattes. Il a ses pattes, il peut grimper. Et il peut monter comme ça très haut sur les troncs pour se nourrir. Et il mange d'ailleurs à peu près n'importe quoi, ce qui tombe sous ses pinces ou sous ses mandibules, des végétaux, des crustacés, des œufs de tortue, enfin un petit peu de tout. Alors ce qui est très intéressant chez lui, c'est le mode de vie de sa larve. Très souvent, quand on étudie le stade juvénile des animaux, on est très renseigné sur leur identité. Alors au moment de la reproduction, les mâles et les femelles viennent s'accoupler près du rivage et puis les femelles vont en mer pour prendre leurs œufs. Donc dans la mer, les œufs s'ouvrent et libèrent de minuscules larves nageuses qu'on appelle des zoées. Alors les petites zoées, elles vont au bout de quelques semaines tomber sur le fond, se transformer en petits crustacés avec des pattes marcheuses. En fait, ils vont en tout point ressembler à un Bernard l'Ermite avec un abdomen mou. Et déjà, là, à ce niveau-là, à ce stade-là, il va leur falloir emprunter une petite coquille vide. Ils vont se développer et ils vont très rapidement, en fait, migrer vers le rivage pour mener une vie terrestre. Et là, tout en muant et tout en grandissant, il va leur falloir pendant un an ou deux emprunter des coquilles. Ensuite seulement, l'abdomen va se durcir et ils n'en auront plus besoin. Les juvéniles ressemblent en tout point de Bernard l'Ermite.
Mais ce n'en sont pas.
Ce qui est absolument pas évident quand on voit l'adulte et sa cuirasse.
Voilà, le dernier livre de Catherine Vadon concerne les orchidées. Il est édité chez La Martinière. Vous trouverez ses autres livres sur le site des Petits Bateaux, ainsi que les livres de nos précédents intervenants, ainsi que beaucoup d'autres choses passionnantes. Vous pouvez aussi télécharger cette émission, la partager et l'écouter quand bon vous semble. Merci à Hélène Langlois, Marjorie Devoucoux, Eliane Girard et Jean-Baptiste Audibert. Je vous retrouverai la semaine prochaine à partir de 19h30 pour Les Petits Bateaux et ce soir à 22h pour État d'esprit sur France Inter qui sera consacré au psychiatre Christophe André. Nous parlerons de la méditation parce que c'est son truc, mais aussi de la vie en général sur laquelle il a son point de vue bien intéressant. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu.